Bienvenue à toutes et tous dans ce premier épisode du podcast intitulé « Comédie musicale ». Réalisé dans le cadre du Festival Transversal, ce dernier s'intéresse aux liens entre littérature, cinéma et art et se tient usuellement fin novembre. Proposé par les étudiantes du Master de littérature générale et comparée de l'Université Rennes 2, le format prévu initialement de la table ronde a été réinventé au regard du contexte sanitaire, devenant l'occasion de créer le documentaire sonore que vous vous apprêtez à écouter. Afin de réfléchir à cette thématique de la comédie musicale, nous avons mis à contribution trois invités. Ntebin, journaliste et critique, commissaire de l'exposition comédie musicale La joie de vivre du cinéma. Anna Marmiès, journaliste, créatrice du podcast All That Jazz et scénariste réalisatrice de Lorraine ne sait pas chanter. Et enfin, Pierre-Olivier Touza, spécialiste du cinéma d'Hollywood et maître de conférences en études cinématographiques à l'Université de Paris. Grâce à une série d'entretiens qu'ils nous ont aimablement accordés, mais aussi grâce à une série de capsules sonores proposées par les étudiants sur le sujet, nous proposons dans ce premier épisode de réfléchir à ce qu'est une comédie musicale. Un genre hybride, propre au cinéma hollywoodien ? Limites et caractéristiques du genre seront au cœur des discussions que nous partagerons ici avec vous. Un second épisode sera proposé en prolongement de ces questionnements que vous pourrez retrouver à la suite de celui-ci. Nous vous souhaitons une agréable écoute.
Vous avez plusieurs fois évoqué cette espèce de triptyque chorégraphie, chant, musique. Et donc, je voulais rebondir sur une question qu'on n'a pas abordée, mais donc, finalement, la question de la définition de la comédie musicale. C'est une question qui est vraiment sujet à discussion, les limites de la comédie musicale, qu'est-ce qui relève de la comédie musicale et qu'est-ce qui n'en relève pas. Est-ce que vous-même, vous avez un peu des pistes sur est-ce qu'il faut nécessairement que les trois éléments de cette triptyque soient présents pour que vous évaluiez une œuvre cinématographique comme relevant de la comédie musicale? Est-ce que c'est pas une nécessité? Est-ce que vous avez par exemple été confronté à des productions un peu hybrides ou du moins qui vous ont interpellé quant au fait qu'il s'agisse ou non de comédie musicale?
Pierre-Olivier Touza.
Alors on est sans cesse confronté en fait à des productions hybrides, comme vous le dites justement, ou à des films qui semblent en fait défier les classements, les taxonomies, les volontés comme ça de rangement. En fait, dès qu'on s'intéresse à un genre, mais c'est quand même aussi souvent le cas en littérature, hein, me semble-t-il, on est voilà, confronté à ces œuvres limites. Cela étant, à mon sens, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'un genre cinématographique, artistique ou autre, ne correspond pas seulement à une volonté de classer, donc d'inclure ou d'exclure certaines œuvres d'un corpus générique, mais aussi en fait à d'autres opérations culturelles, économiques, industrielles, etc. Donc je pense qu'il faut en fait savoir un peu oublier les taxonomies, les règles très, très, très strictes, les définitions très strictes pour pouvoir s'intéresser largement aux films qui mêlent récits et moments musicaux. Voilà. Donc on est constamment confronté à des films limites. Bon, mais c'est l'intérêt aussi de la réflexion autour de ce genre. Alors cela étant, si vous voulez absolument des définitions, donc il y a... Donc on a certains chercheurs, notamment aux États-Unis, qui ont fait ce travail-là, donc notamment un chercheur qui s'appelle Rick Altman, donc qui est l'un des grands théoriciens aux États-Unis de la notion de genre cinématographique. Et ça tombe bien, il a écrit un livre très important sur la comédie musicale, dans lequel il montre de façon convaincante que les comédies musicales, généralement, sont fondées sur l'alternance. C'est-à-dire l'alternance de segments, de moments, de séquences narratives dans lesquelles les personnages parlent, marchent, etc. et des moments musicaux dans lesquels les personnages se mettent, selon le cas, à danser, à chanter, ou les deux. Et ce qu'il montre, c'est que la comédie musicale est fondée donc, sur cette alternance pardon, et sur des moments de transition, qu'il appelle des moments de fondu, notamment avec des techniques de fondu, de transition sonore, qui permettent le passage de ces moments, non musicaux à ces séquences de chant et de danse. Voilà. Alors, si on retient ce type de définition sur l'alternance, bah, ça conduirait à exclure, dans le domaine français, les films de Jacques Demy, ceux qui sont entièrement chantés, de la comédie musicale, puisqu'ils ne sont pas fondés sur l'alternance. Voilà. Bon, mais après, je pense qu'il faut savoir se détacher un peu de ces définitions peut-être un peu rigides parfois.
Vous émettez une distinction entre les films entièrement chantés et les comédies musicales. Et je me demandais si vous pourriez expliquer pourquoi les films entièrement chantés n'entrent pas dans la définition de comédie musicale.
Entebin.
Pour moi, les films entièrement chantés, d'abord, il n'y en a pas beaucoup, des films entièrement chantés. Il y a essentiellement des opéras filmés ou des films opéras, comme disait Daniel Toscan-Duplantier. Or, un opéra filmé, ça n'est pas une comédie musicale. C'est pas moi qui le dis, mais il suffit de demander à n'importe qui regarde un opéra filmé, vous lui demandez est-ce que pour vous, ce que vous voyez, c'est une comédie musicale, il dira non. Donc déjà, c'est une catégorie de films qui est hors notre genre, qui est la comédie musicale. Ça n'en fait pas partie. Et sinon, si on accepte les opéras filmés, les films entièrement chantés, il y en a très peu dans l'histoire du cinéma. Il y a quelques films de Jacques Demy, pas tous, mais il y a Les Parapluies de Cherbourg, essentiellement, et Une chambre en ville. Il y a quelques films adaptés de spectacles de Andrew Lloyd Webber, puisque Andrew Lloyd Webber, il fait des spectacles musicaux qui sont entièrement chantés. Mais il y en a très peu, hein. Il y a Les Misérables, il y a Evita. Les Misérables, ce n'est pas Webber, mais c'est aussi entièrement chanté. Donc, finalement, ces films qui sont entièrement chantés, on pourrait les ranger dans une catégorie qu'on pourrait appeler le film musical, mais pour moi, ce ne sont pas des comédies musicales. Une comédie musicale, pour moi, c'est un film qui est où il y a des dialogues, il y a des scènes parlées, et puis il y a des séquences où le chant, la danse ou l'interprétation musicale, ça peut être un instrument de musique ou un orchestre, joue un rôle très important. Je n'en dis pas tellement plus dans ma définition. Si on en dit plus, ça restreint en fait trop la définition et ça amènera à exclure certains films qui sont en fait des comédies musicales. Donc pour moi, un film entièrement chanté n'est pas une comédie musicale, aussi parce que étymologiquement, quand on dit comédie musicale, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que ce sont des comédies avec de la musique. C'est comme si je vous disais un opéra bouffe, c'est un opéra où on bouffe. Non, bon. Une comédie musicale, c'est un film où il y a des acteurs qui jouent la comédie, et puis de temps en temps, ces acteurs font partie de séquences musicales qui sont soit chantées, soit dansées, soit où il y a un instrument de musique, ou, enfin de la musique qui joue un rôle très important dans le récit. Donc voilà pourquoi les films entièrement chantés, ne contenant pas d'acteurs qui jouent la comédie, pour moi, ne sont pas des comédies musicales.
Donc en fait, c'est cette alternance qui fait que c'est une comédie musicale.
Dans cette définition de la comédie musicale, ça veut dire qu'il y a une alternance entre partie musicale et partie non musicale. Les Américains, d'ailleurs, ils ont une expression un peu péjorative pour les films entièrement chantés ou entièrement musicaux. Ils appellent ça des musicals papier peint. C'est-à-dire que tout le récit du film est musical, comme toute une pièce est couverte de papier peint. Donc, ils disent « wall to wall », c'est-à-dire tous les murs sont recouverts de musique. Ce n'est pas tellement l'alternance, dans ce cas-là, qui est important, c'est la transition des parties musicales aux parties non musicales, des parties non musicales aux parties musicales. Parce que dans un film qui est entièrement chanté, comme dans un opéra, on ne se pose jamais la question de la crédibilité des personnes qui chantent. Puisque dans un film opéra, par exemple, tout le monde chante. Or, dans une comédie musicale, il y a ce problème que se posent les scénaristes, les réalisateurs, les interprètes, qui est, à un moment donné, on va opérer une transition entre des parties non musicales et des parties musicales. Et c'est cette transition qui souvent fait problème, et c'est cette transition qui, quand elle est réussie, fait les comédies musicales réussies.
Est-ce que vous avez un réalisateur que vous préférez en particulier ?
Anna Marmiès.
Bon, y en a beaucoup, évidemment.
Peut-être que si j'en devais en dire un, ça serait Jacques Demy, parce que il a traité le film musical sous tous ses angles, en fait, entre Les Demoiselles de Rochefort, qui est très inspiré de la comédie musicale hollywoodienne classique, avec l'alternance du chant, de la parole et du chant, les numéros musicaux qui sont filmés comme dans l'Hollywood classique, etc. Et il est aussi allé vers des films entièrement chantés, donc Les Parapluies de Cherbourg en 64, et puis plus tard Une chambre en ville. Un magnifique film de 82, où là, ça se rapproche presque plus de l'opéra, surtout Une chambre en ville, parce qu'il y a le côté hyper tragique, puis la musique est encore plus opératique. Voilà, il y a des films un peu plus méconnus musicaux de Jacques Demy, comme Le joueur de flûte, qui est une adaptation du conte Le joueur de flûte de Hamelin, tourné en anglais avec le chanteur Donovan dans le rôle principal, qui renvoie un petit peu à Peau d'âne, parce que c'est du coup notre adaptation de conte. Voilà, il a exploré plusieurs manières de faire de la comédie musicale, enfin de faire du film musical. Il a exploré plusieurs manières de faire des films autour de la musique et avec la musique. Et je trouve qu'il est vraiment très intéressant pour ça.
Est-ce que la comédie musicale française, elle se revendique pas un peu aussi être du cinéma d'auteur?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la comédie musicale aux États-Unis, la comédie musicale hollywoodienne, c'était un genre. Et un genre, ça veut dire quoi? Ça veut dire une grosse production, très importante production, de très nombreux films chaque année, qui sont attendus par le public et qui sont produits pour satisfaire l'attente du public. Dans ce sens-là, en France, il n'y a jamais eu de genre comédie musicale. Il y a des cinéastes français qui, par amour de la comédie musicale américaine, par amour du cinéma hollywoodien, ont essayé, sont parfois parvenus, à réaliser des films qui ressemblaient ou qui rendaient hommage à la comédie musicale américaine. Et parmi les cinéastes qui ont voulu témoigner de leur amour pour la comédie musicale hollywoodienne, il y a les cinéastes de la Nouvelle Vague, qui ont presque tous voulu, à un moment ou à un autre, réaliser une comédie musicale. Il n'y en a qu'un qui a vraiment réussi, c'est Jacques Demy. Mais il a commencé par un film qui, tout en étant rattaché à la comédie musicale, n'en était pas vraiment une, pour des raisons qu'on a déjà évoquées, parce que c'était un film entièrement chanté, qui n'était pas d'ailleurs une comédie du tout, qui était Les Parapluies de Cherbourg. Ensuite, Jacques Demy, qui a eu beaucoup de mal déjà à convaincre une production. Il est allé voir toutes les productions. Il n'y a qu'une productrice qui s'appelle Mac Bodard qui a accepté de produire un film entièrement chanté qui était Les Parapluies de Cherbourg. Après, le film a eu la Palme d'Or à Cannes, a été un triomphe international. Donc, Mac Bodard a produit aussi, coproduit avec les Américains, le film suivant de Jacques Demy et Michel Legrand. C'était quand même 3-4 ans après, qui étaient Les Demoiselles de Rochefort, et qui, pour le coup, était une vraie, entre guillemets, comédie musicale à l'américaine, d'ailleurs avec une distribution franco-américaine. Il y avait Gene Kelly et George Chakiris, en plus de Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac et Daniel Darieux, et Michel Piccoli, et Jacques Perrin. Donc voilà, c'était un film franco-américain. Par la suite, en fait, les producteurs avaient envie de faire des succès avec Jacques Demy, mais à chaque fois, ils lui disaient, mais arrêter de mettre des chansons. En France, c'est pas considéré comme très commercial de faire une comédie musicale. Donc, Jacques Demy, voilà, il va faire un conte de fées qui est Peau d'âne pour essayer de ne pas révéler au public pendant la promotion que c'est une comédie musicale. Voilà, il y a des superfuges comme ça pour convaincre le public. Attention, ce n'est pas une comédie musicale, donc vous pouvez y aller, le public français. Donc, et c'est ça, la contradiction des comédies musicales dites à la française, c'est qu'elles sont le fait de cinéastes, d'auteurs qui adorent les comédies musicales américaines, qui aimeraient leur rendre hommage ou emprunter certaines de leurs formes, mais qui doivent convaincre des producteurs. Et ce n'est pas évident. Et souvent, ils le font avec un petit budget. C'est pour ça que ce sont souvent des films d'auteurs à relativement modeste budget qui sont des comédies musicales à la française. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cinéma français, dans les années 30, lorsque le cinéma parlant est arrivé, que les films américains, déjà, ils avaient un peu plus de mal qu'au temps du muet à être montrés en France à cause de la langue, les films parlés en anglais, Donc avant la généralisation du sous-titrage puis du doublage, bah, les films américains, ils n'étaient pas tellement vus. Donc les grands succès du cinéma américain, les Français ont essayé un peu de les copier et ils ont fait des films, certains films, qui, disons, essayaient de reprendre parfois des formes de la comédie musicale hollywoodienne, mais à la sauce française. Et ça a donné parfois des résultats hybrides. Il y a un fait, c'est que quand vous voyez les grands classiques du cinéma français des années 1930, vous allez vous apercevoir que dans presque tous les films, il y a des chansons. Alors, à partir du moment où il y a 3, 4, 5 chansons, ce sont quasiment ce qu'on pourrait appeler des comédies musicales. Mais sinon, il y a eu, de la même manière qu'à Hollywood, une sorte de volonté de faire venir de la scène, du théâtre ou du music hall, des vedettes qui pouvaient être à l'aise dans le cinéma parlant. Et puisque ces vedettes, parfois, avaient des compétences aussi de chanteurs ou de chanteuses, ou danseurs ou danseuses, eh bien, dans énormément de films des années 30, vous avez une séquence ou deux, ou parfois un peu plus, où la vedette chante. Puisque, bon, Jean Gabin était chanteur, Danielle Darrieux était chanteuse, Arletty avait chanté aussi sur scène, Michel Simon. Bon, et puis, il y avait ceux qui aussi étaient des stars de la radio, de la chanson populaire de l'époque, qui sont devenus des stars de cinéma. Tino Rossi, Florel, Jean Gabin, d'une certaine manière, plus tard Luis Mariano. Voilà. Donc en France, il y avait aussi cette tradition de cinéma un peu qui venait parfois de l'opérette, qui parfois imitait un peu les comédies musicales américaines. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, une fois le cinéma classique un peu remis en question dans les années 60, eh bien, en quelque sorte, ces jeunes cinéastes ont réalisé du cinéma d'auteur, ce que faisait aussi Jean Renoir dans les années 50, quand il faisait French Cancan, par exemple, en imitant ou en rendant hommage à la comédie musicale. Donc, voilà, c'est pour ça qu'en France, ça n'a jamais été un genre, disons, produit à l'échelle industrielle, comme les comédies ou comme les films policiers, parce que c'était un genre pour Happy Few. C'était un genre pour cinéaste, pour auteur, justement. Alors que aux États-Unis, quand vous interrogez les grands réalisateurs ou chorégraphes, enfin, quand vous lisez les interviews ou les témoignages de l'époque, ce qui prime, en fait, c'est que la comédie musicale est une œuvre de collaboration. C'est-à-dire, il n'y a pas d'auteur unique, il y a, disons, une réunion de talents qui vont se mettre au service d'une œuvre qui va être la comédie musicale.
Hors de la littérature, vous avez orienté vos recherches sur des productions cinématographiques hollywoodiennes. Est-ce que vous ressentez des différences entre les comédies musicales américaines hollywoodiennes et les comédies musicales françaises ?
C'est une excellente question à laquelle j'aurais un peu de mal à répondre, mais c'est une très bonne question. Alors, je pense qu'il y a une force, une puissance du modèle hollywoodien qui s'impose à d'autres cinématographies, notamment la cinématographie française, puisque, par exemple, un cinéaste comme Jacques Demy s'inspire, enfin connaît très bien ces films-là, ces modèles-là, et s'en inspire dans un film comme Les Demoiselles de Rochefort. Voilà, donc ça, c'est un fait. Mais cela étant, je pense qu'il y a vraiment des différences très fortes en termes de culture musicale, en termes de type de récit en France, donc par rapport aux États-Unis. Je pense que vraiment les différences culturelles, notamment, sont vraiment très, très importantes. Donc on a affaire à deux genres qui, évidemment, ont des ressemblances. Donc, il s'agit de films musicaux dans chaque cas, donc qui mêlent récits, séquences narratives et moments musicaux, moments de chant, moments de danse, de musique instrumentale. Mais au-delà de ces ressemblances de surface, donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de différences, voilà, liées au contexte culturel, qui sont évidemment très, 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 très différents.
Éventuellement, je me demandais, parce que les anglophones différencient le musical film et le musical theater. Est-ce que vous savez ou est-ce que vous auriez une idée des raisons pour lesquelles le terme français comédie musicale ne fait pas cette distinction entre production musicale filmique et production musicale théâtrale ?
Oui, alors c'est une bonne question, mais qui est complexe aussi. en Europe et aux États-Unis. Je pense qu'on peut trouver dans tous les cas des traditions de spectacles musicaux scéniques et de spectacles musicaux cinématographiques. Alors, après, aux États-Unis, enfin, il y a plusieurs termes pour désigner tous ces spectacles. Le terme de musical tout court ou de musical comedy peut s'appliquer en fait, à un type de spectacle théâtral et à un type de spectacle cinématographique, en fait, très, très largement. Globalement, la plupart des comédies musicales cinématographiques peuvent s'appeler des musicals ou des musical comédies, ou, comme vous l'avez dit, des musical films. Mais c'est vrai qu'il y a aux États-Unis quand même peut-être une conscience plus nette qu'en France de l'importance, de l'existence, du succès à toutes les époques de ces spectacles scéniques jusqu'à aujourd'hui, donc qui sont très populaires, qui sont connus et qui sont ensuite diffusés sur plusieurs médias. Alors, en France, alors je pense qu'on a aussi ces traditions-là avec des noms divers, par exemple la revue, qui a connu d'ailleurs une existence aussi au cinéma. Et je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être aussi en train de retrouver, avec le succès d'un certain nombre de comédies musicales au théâtre en France, que ce soit à Paris ou dans d'autres villes, évidemment, on est en train de retrouver, en fait, cette idée qu'il n'y a pas que la comédie musicale cinématographique qu'on appelle comédie musicale, mais qu'il y a aussi cette importance qui est accordée, qu'on doit accorder aux comédies musicales scéniques.
L'ambiguïté du terme comédie musicale en langue française, là où l'anglais précise musical theatre et musical film, montre bien que la frontière entre scène théâtrale et cinéma est poreuse. C'est pourquoi un petit historique s'impose. Si la présence de chant et de danse est attestée dans le théâtre de l'Antiquité, il faut attendre le XVIIe siècle pour que naisse un genre entièrement consacré au chant, l'opéra italien. Il se propage rapidement au reste de l'Europe, et c'est en 1661 que Lully et Molière créent la comédie ballet, c'est-à-dire une pièce agrémentée de musique et de danse mettant en scène la vie quotidienne et prenant souvent le mariage comme thème central. Au XVIIIe siècle, c'est l'opéra comique qui se popularise et contrairement à ce que suggère son nom, il n'est pas nécessairement drôle, ni même conclu par un dénouement heureux. Avec l'essor du nationalisme au XIXe siècle, l'opéra comique tend vers plus de noblesse, ce qui laisse la place à des créations au ton plus léger, comme l'opérette, au milieu du XIXe et ce dans toute l'Europe. Comme son suffixe l'indique, il s'agit d'un petit opéra de 30 minutes avec trois personnages, car le privilège de créer des œuvres de plus grande envergure était réservé à l'Académie impériale de musique et à l'opéra comique. Lorsque ce privilège est résolu en 1858, le petit théâtre des Bouffes parisiennes produit alors des œuvres totales avec force personnages. Les sujets représentés lors des opéras bouffes ont tendance à être plus légers et comiques que ceux de l'opéra comique et de l'opérette. Aux États-Unis, l'immigration oblige les représentations à ne comporter que peu de paroles pour être comprises de tout le monde. La variété se développe au milieu du XIXe siècle dans les saloons pour un public masculin peu éduqué. Dans les années 1880, elle devient accessible à la classe moyenne et aux familles et se transforme alors en vaudeville très populaire. Alain Perroux, dans son article « La comédie musicale mode d'emploi », explique que « les numéros vont du ventriloque chanteur d'opéra au récital de pétomane en passant par des monologues shakespeariens déclamés la tête en bas, des scénettes à plusieurs personnages ou des chansons dansées ». La comédie musicale peut donc être vue comme descendant de l'opéra comique et de l'opéra bouffe, puis de l'opérette avec une forte influence américaine de la chanson vue comme numéro à faire. À la sortie de la Première Guerre mondiale, les productions de Broadway sont marquées par un optimisme lié à la période de croissance économique. Le jazz arrive sur la scène théâtrale en 1927. Le premier film parlant est produit, ce qui ouvre de nouvelles perspectives. On a bien vu que l'histoire de la comédie musicale est très longue, mais pourquoi ? Car si les productions perdurent, c'est bien qu'elles sont rentables. Qu'est-ce qui fait qu'on aime la comédie musicale ? Avant tout, la comédie musicale parle à nos sens. Le spectateur fait l'expérience d'un spectacle total qui fait le plaisir des yeux et des oreilles. À la chanson s'ajoutent bien souvent des numéros dansés, des numéros de claquettes, des jeux de lumière, des envolées dans les airs et toute autre chose que permet la machinerie moderne. Ça crée un plaisir esthétique chez les spectateurs. La pièce Cats, en 1981, est l'exemple du spectacle total. Les acteurs et les actrices interprètes jouent des chats anthropomorphes grâce à des costumes de fausse fourrure et à un maquillage outrancier, dansent et chantent sur une scène au décor chargé. Une même comédie musicale peut également se renouveler sans changer son livret grâce à une nouvelle mise en scène, car comme le disent Sylvie Chalet et Gilles Mouelic, la diversité des univers artistiques explorés montre à quel point chanson, musique, danse demeurent d'inépuisables lieux d'invention formelle. Au départ, la chanson était un numéro attendu de la comédie musicale, mais elle s'est progressivement intégrée à l'histoire pour exprimer les sentiments des personnages. Pour reprendre les mots d'Alain Perroux, la musique et les paroles forment alors un tout qui a une résonance à la fois émotionnelle et intellectuelle chez le spectateur, jusqu'à permettre une certaine catharsis, c'est-à-dire la purgation des passions, car il y a identification au personnage. Pour cela, c'est le général qui est mis en valeur pour que dans l'universel, chaque spectateur trouve son particulier. Comme le dit poétiquement Alain Perroux, la chanson est simultanément un bout d'éternité, un coffre à souvenirs et une petite portion de ce long fleuve tranquille qu'est le temps mesuré en termes humains, c'est-à-dire au gré des peines de cœur, des drames du quotidien et des joies fugaces. La légèreté de ton d'un grand nombre de comédies musicales contribue aussi à la popularité du genre. Les musiques au rythme entraînant restent dans la tête et mettent de bonne humeur. Cela ne veut pas dire que les comédies musicales ne proposent pas de réflexions plus sérieuses, mais celles-ci peuvent facilement passer au second plan pour mettre en valeur une certaine insouciance. L'intrigue des comédies musicales tourne souvent autour de deux personnages attirés l'un par l'autre et le film ou la pièce se clôt sur la vision du tout jeune couple, enfin réuni après de nombreuses péripéties. La tension entre les amants s'exacerbe progressivement et l'usage de la danse permet d'érotiser les corps, même si, selon Sylvie Chalet et Gilles Mouilic, la comédie musicale escamote le désir charnel car tout l'art cinématographique doit concourir à son idéalisation. Le plaisir est dans le mystère, dans l'attente, plutôt que dans la représentation prosaïque du plaisir charnel. Ces romances renforcent à la fois l'impératif social de trouver un partenaire de vie et proposent une solution idéaliste à la peur bien humaine de vieillir seule et mal aimée, ce qui a pour conséquence de faire des comédies musicales une expérience réconfortante. Les comédies musicales nous font rêver et nous mettent des étoiles plein les yeux. Toutes les couleurs et les mouvements chorégraphiés font entrevoir un monde brillant où les personnages eux-mêmes, pétris de rêves, mettent tout en œuvre pour trouver le bonheur. Sylvie Chalet et Gilles Mouilic parlent d'espace compensatoire. Le cinéma comble à l'écran les désirs de la ville, les manques et les attentes matérielles comme sentimentales, les rêves d'amour et de richesse, tout en exaltant les valeurs de réussite, d'honnêteté, de courage et d'aspiration à la gloire. Les années 1960-1970 marquent un changement de ton dans les nouvelles comédies musicales qui mettent en scène des intrigues plus sombres et dont le dénouement heureux n'est plus assuré. La comédie musicale devient aussi le miroir de la réalité en représentant le désenchantement et les désillusions de toute une génération. La diversification des comédies musicales permet un renouveau du genre et un regain de popularité. Elle est aussi en capacité de parler d'elle-même, de rendre hommage aux films les plus marquants et de critiquer son genre. Elle présente de nombreux attraits, et ce depuis les origines du genre. Spectacle total, légèreté, romance, rêve. Sa nature changeante et le fait qu'elle ne cesse de se réinventer de manière formelle grâce aux nouvelles techniques cinématographiques mais aussi grâce aux nouvelles mises en scène est une façon d'expliquer la pérennité de l'engouement qu'elle continue de susciter.
Si vous deviez recommander une comédie musicale pour quelqu'un qui n'en a jamais vu ou qui ne connaît pas du tout ce genre-là, laquelle vous recommanderiez pour découvrir ce genre ?
Pour initier, on va dire, à la comédie musicale hollywoodienne classique, je pense qu'Un jour à New York est bien, parce qu'il est très entraînant, on est vraiment pris dans ce tourbillon musical, etc. Il peut aujourd'hui paraître un petit peu désuet, en un sens, donc peut-être Chantons sous la pluie aussi, hein, ça je trouve. Chantons sous la pluie, c'est un de ceux que j'ai montré à des amis qui connaissent rien à la comédie musicale, et qui fonctionne toujours. Parce qu'en dehors du côté musical, il est très drôle, l'histoire est intéressante, etc.
Quand on a abordé la question de la comédie musicale tout ensemble avec les étudiantes avec lesquelles on travaille sur ce projet, on s'est interrogé sur notre propre rapport à la comédie musicale et tout de suite ce qui est venu, ça a été tout ce qui est donc déjà pour commencer les rapports au niveau de la jeunesse, donc les films d'animation type Disney, voilà, et aussi l'adolescence, le côté très, voilà, on se remémorait un petit peu, on avait ce côté très nostalgique autour de la comédie musicale qui nous a frappés, en fait. Et avec cette idée aussi que la comédie musicale, c'est beaucoup de d'air qu'on peut fredonner tous ensemble, de choses, de référents communs qu'on a. Et donc, je voulais savoir un peu comment vous percevez cet aspect-là, ce côté... alors, on est vraiment dans le domaine de la réception, mais vraiment ce côté... le rassemblement, en fait, qui peut se faire autour des comédies musicales, mais aussi pourquoi c'est quelque chose qu'on rattache aussi aisément en premier lieu à l'enfance ou à l'adolescence. Est-ce qu'il y a des éléments dans la comédie musicale qui expliquent, au-delà de son aspect spectaculaire, le fait que ça nous fasse écho, ça fasse écho en nous comme ça?
Oui, alors je vais vous répondre peut-être en deux temps. D'une part, je n'aurais pas de réponse très très précise à vous faire, si ce n'est qu'on peut constater qu'au moins depuis 20 ans, donc il y a vraiment une force et une grande importance, une présence des productions pour la jeunesse. Donc ça, c'est indéniable. On parlait de Disney tout à l'heure. Depuis le début des années 2000, voilà, Disney a une production notamment de téléfilms, bon, mais dont certains sont sortis au cinéma. Donc c'est le troisième volet de High School Musical qui est sorti au cinéma. Et ce sont des productions pour la jeunesse qui reprennent vraiment les codes de la comédie musicale classique. Ça, c'est indéniable. Il y a aussi une production pour alors soit adolescents ou jeunes adultes. Je pense en particulier aux films de danse. Donc, il y a toute une production depuis aussi une vingtaine d'années de films de danse qui est vraiment très intéressante, notamment toute la série des Step Up, qui voilà, donc s'adresse à des publics jeunes et reprennent les codes de la comédie musicale. Maintenant, je n'ai pas vraiment d'explication pour cela. D'autre part, comme vous évoquiez votre cas précis, pour ce qui me concerne, en fait, je n'ai jamais été, je pense que je ne suis pas encore aujourd'hui, je ne suis pas fan véritablement de comédie musicale. C'est-à-dire qu'en France, je pense qu'on peut aussi avoir, et du moins c'est ce que j'ai ressenti, un effet d'étrangeté par rapport à ces films. C'était mon cas quand j'étais plus jeune, parce qu'on voit souvent ces films sans la traduction des moments musicaux. Donc ce sont des films parfois un peu difficiles à appréhender, à saisir. Alors moi, c'était vraiment mon regard sur ces films que je regardais, de façon un peu, voilà, pas éberluée, mais du moins, sans m'y intéresser vraiment. Donc j'ai dépassé évidemment cette posture-là, ce regard-là aujourd'hui, parce que je comprends mieux les films, et, évidemment. Mais du moins, moi, je ne me définirais pas comme un fan de comédie musicale. C'est un petit peu compliqué parce que à l'université, donc moi je donne un cours sur la comédie musicale, et ce que je remarque quand même, c'est un intérêt renouvelé depuis quelques années pour ce genre. Donc je pense que c'est un genre qui, parce qu'il est très présent, comme vous le disiez tout à l'heure, sur d'autres médias, parle peut-être davantage à des spectateurs, des spectatrices jeunes aujourd'hui. Je pense que cet effet d'étrangeté, il est peut-être moins présent depuis quelques années. Cela étant, vous citiez West Side Story, c'est un film qui est à la fois extrêmement connu en France, mais qui reste en fait quand même difficile à vraiment analyser, parce que au-delà de la question des dialogues traduits ou des paroles des chansons traduites ou non, c'est un film qui à la fois se veut d'une certaine façon réaliste, en se déroulant pour la majeure partie des numéros, notamment le prologue, dans des décors naturels, mais qui à la fois procède d'une telle stylisation des mouvements de danse, notamment dans ces décors naturels, qui produit nécessairement cet effet d'étrangeté et que certains spectateurs ont du mal, en effet, à adhérer pleinement à ce type d'esthétique.
J'ai des frissons, ils se multiplient, et je perds le contrôle, car le pouvoir que tu exerces est électrisant. Tu ferais mieux de te reprendre, car j'ai besoin d'un homme, et c'est toi qu'il me faut. Tu as intérêt à t'améliorer. Tu ferais mieux de comprendre que je dois être fidèle à mon instinct. Rien à faire, il ne me reste rien à faire. Tu es celui que je veux, tu es celle que je veux. Ou, miel. Tu es celui que je veux, tu es celle que je veux. Ou, chérie. Tu es celui que je veux, tu es celle que je veux. Ou, celui que je veux, celle que je veux. Oh oui, effectivement. Bienvenue dans le podcast VO ou VF consacré à la question de la traduction des chansons des comédies musicales. Vous venez d'entendre un hommage, ou du moins une tentative de traduction peu concluante, de la chanson « You're the one that I want » interprétée par Olivia Newton-John et John Travolta dans Grease. Vous l'aurez remarqué dans ce court extrait, traduire une chanson n'est pas un exercice facile. Comme la musicalité est le paramètre principal d'une chanson, le traducteur ne peut pas se permettre de n'en restituer que le sens. Il faut également que la forme originale de la chanson soit respecté, c'est-à-dire les rythmes, les jeux sur les sonorités et les rimes. Dans une comédie musicale, une erreur de traduction serait fatale. Qu'il s'agisse d'une phrase un peu trop longue ou au contraire trop courte, le grand écran aurait raison de la moindre étourderie. Le facteur image qui entre en jeu rajoute effectivement un autre type de rythme auquel la chanson doit aussi s'accorder. Cette question de la traduction m'est venue lors de mon premier visionnage de West Side Story au cinéma. Depuis mon fauteuil, je suis complètement absorbée par l'histoire. Je m'émerveille devant les danses de Natalie Wood sur les toits new-yorkais et devant la fureur qui semble animer les personnages adolescents du film. Seul bémol, je ne comprends pas encore l'anglais à l'époque. Et surprise, les sous-titres français disparaissent pendant les chansons. Je m'accroche donc aux voix, aux danses, au rythme, mais le sens m'échappe. Bien que l'image pâlie se manque, je regrette de passer à côté d'une partie de l'œuvre. Au fur et à mesure de mes découvertes en matière de comédie musicale, je me rends compte que la non-traduction des chansons est finalement habituelle. Les dialogues seront sous-titrés, voire doublés, dans une version française, mais les chansons seront souvent laissées telles quelles. J'ai pourtant le souvenir de chanter à tue-tête en shootant dans les feuilles mortes après un visionnage excessif de L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est bien la preuve qu'il existe des chansons de comédie musicale traduites et même doublées, à notre plus grand plaisir. Mais dans ce cas, pourquoi certaines chansons possèdent-elles une traduction et pas d'autres ? Petite question. Si je vous dis « L'étrange Noël de Monsieur Jack », « La Belle et la Bête » et « Mary Poppins », quel est le point commun entre ces trois films ? En effet, ce sont des comédies musicales qui possèdent une version française. Mais ce sont également trois productions Disney. Le lien de cause à effet apparaît d'un coup plus évident. En effet, Disney, comme on le sait, possède beaucoup de moyens et une renommée internationale. La célèbre chanson « Let it go » de la comédie musicale animée « La Reine des Neiges » a par exemple été doublée en 25 langues. De grands moyens déployés pour mettre des chansons entêtantes dans le crâne de tous les chérubins. C'est réussi. Il arrive parfois même que l'on connaisse par cœur des chansons dont le sens nous échappe. C'est le morceau de ce qui est la métina coulée, la métina coulée, métina coulée. Personnellement, je n'ai jamais compris ces paroles. C'est une traduction puissance 10 en quelque sorte. Voilà comment Philippe Witkoc décrirait le travail que représente la traduction d'une chanson de comédie musicale. Il se décrit lui-même comme adaptateur, car il est à l'origine de nombreuses versions françaises de productions Disney telles que La Princesse et la Grenouille, L'étrange Noël de Monsieur Jack ou encore Le dernier Mary Poppins. Dans une interview au sujet de ce métier insolite, Philippe Witkoc explique plus précisément la contrainte du synchronisme labial dans le doublage. Le synchronisme labial, ce sont les moyens mis en œuvre pour que le mouvement des lèvres d'un personnage s'accorde avec les sons qui en sortent. Pour lui, c'est une contrainte tout aussi difficile à respecter dans les dessins animés que dans les films dits traditionnels. Il dit par exemple « Quand j'ai commencé dans ce métier, on m'a dit qu'il fallait surtout être synchrone avec les yeux. Le spectateur n'a jamais les yeux fixés sur la bouche des personnages, mais sur leur visage. Si le comédien chanteur est bon, le spectateur prête moins attention au synchronisme. » Il existe donc une ribambelle de techniques à savoir pour exercer ce métier qui apparaît pourtant de prime abord comme un véritable casse-tête. Cela signifierait-il donc qu'il n'existe aucune version française de comédie musicale en dehors des productions Disney ? Effectivement, les adaptations sont rares. Cependant, une chanson fait l'objet d'une exception. Chères auditrices, chers auditeurs, je veux bien évidemment vous parler d'une des chansons les plus connues de l'histoire de la comédie musicale, à savoir « Singing in the Rain ». Cette chanson est devenue mythique grâce à l'interprétation de Gene Kelly dans le film « Singing in the Rain » de 1952. Mais elle possède une histoire antérieure. Elle apparaît pour la première fois dans une comédie musicale de 1929 intitulée « The Hollywood Review ». Dans ce film, Cliff Edwards et Joan Crawford prêtent leur voix pour entonner l'air célèbre de « Singing in the Rain ». Thank you. C'est une des rares chansons de comédie musicale qui est sortie de son contexte cinématographique. La chanson a été interprétée maintes et maintes fois dans des contextes purement musicaux, comme vous pouvez l'entendre, dans le petit florilège que voici.
I'm singing in the rain, just singing in the rain.
What a glorious feeling, I'm so, so happy again. I'm laughing at clouds.
So dark up above, the sun in my heart and the rain.
Vous venez d'entendre successivement Lena Horne, Gordon McRae et Sheila interpréter la chanson Singing in the Rain. Cette chanson a par ailleurs fait l'objet d'une adaptation française de Jean Sorbier en 1930 et de Roland Gerbeau en 1953.
Je chante sous la pluie, oui, je chante sous la pluie. Quelle charmante impression, j'adore cette sensation.
Je chante sous la pluie, oui, je chante et danse sous la pluie. Sans soucis, des soucis, mon cœur est à l'abri. Sous les gouttes d'eau, je me dis qu'il fait beau. Il y a du soleil.
Mais revenons à nos comédies musicales. Quoi de mieux qu'une reprise d'une chanson de comédie musicale dans une comédie musicale? C'est une drôle de mise en abîme que nous propose en effet le film d'animation américain Robots, sorti en 2005. On pourrait même parler ici de pastiche, car les paroles sont détournées dans cette version pour mieux correspondre au thème du film. On le sait en effet, la pluie et les robots ne font pas bon ménage. C'est pourquoi Fender, le robot comique de l'histoire, a décidé de nous interpréter plus prudemment Singing in the Oil, autrement dit Chantons sous la graisse, que l'on écoutera en français grâce aux travaux des adaptateurs.
Ta da da da, woo! Ta ta da da da, bing! Bam bam ba da ba, boom! Ta ta da 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 da. Je chante sous la graisse, je turbine sans cesse, je tourne et tournevis sur la graisse.
De Grease à Chantons sous la graisse, je crois que cette fois la boucle est bouclée et j'espère que grâce ou à cause de ce podcast, vous aurez la chanson dans la tête pour un petit moment encore.
Moi, personnellement, quand j'entends parler de comédie musicale, je pense particulièrement à la comédie musicale filmée, ouais. Du coup, qui sortirait au cinéma. Et j'ai moins tendance à penser aux comédies musicales qui sont jouées sur scène. Est-ce que, du coup, vous avez, entre ces deux genres-là, une préférence?
Alors ça, c'est très difficile. C'est effectivement vrai que... quand on est plus dans, peut-être à l'université ou dans des milieux cinéphiles, etc., si on est du comédie musicale, évidemment, on pense direct Chantons sous la pluie, Sale souris, voilà. Mais il y a aussi plein de gens, vous leur dites comédie musicale, ils pensent Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette, Les Dix Commandements. Donc, ce qui n'est pas forcément ma passion, mais qui n'est pas critiquable en soi, mais voilà, donc c'est tellement vaste. En fait, c'est un art qui peut être à la fois théâtral et à la fois cinématographique. Moi, profondément, ma passion de la comédie musicale, même si j'adore aller au théâtre voir des comédies musicales, ma passion vient du cinéma. Elle vient, c'est les comédies musicales cinématographiques qui m'ont passionné en premier. Donc, je garderai sans doute toujours une petite dose d'amour supplémentaire pour les comédies musicales filmées, puis comme moi, je suis réalisatrice de cinéma, c'est aussi ça que j'ai envie de faire, donc forcément... c'est ce qui m'intéresse un peu plus, mais pour ce qui est de la scène, il y a aussi une création incroyable qui est vraiment à découvrir. On ne connaît pas assez, en fait, en France. En France, on a eu une période donc, de création scénique, pour le coup. Donc, comme je disais, depuis voilà, Notre-Dame de Paris, ça s'est un petit peu perdu, mais il y a quand même beaucoup de créations de comédies musicales hein, qui sont un peu moins commerciales maintenant, mais ça existe toujours. Mais je trouve que il y a une sorte de méconnaissance en dehors de ces grands trucs français qui ont bien marché dans les années 2000, comme tout ce qu'on disait. on ne connaît pas si bien que ça Broadway, Londres, le West End, donc c'est les créations au théâtre londonien. On ne connaît pas si bien quand il y a un film qui sort. Savoir que, en fait, par exemple, le film de Tim Burton, Sweeney Todd, moi, quand je l'ai vu à l'époque, j'avais aucune notion que Sweeney Todd, en fait, c'est une comédie musicale qui a été créée sur scène à la fin des années 70, quoi. Pour moi, c'était un film de cinéma. Et en fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur les comédies musicales scéniques, théâtrales, quoi.
Je voulais revenir aussi sur l'exposition que vous avez organisée qui s'intitulait « La joie de vivre du cinéma ». Si j'ai bien compris, vous aviez installé une map monde qui exposait les chefs-d'œuvre de 15 pays différents en matière de comédie musicale. Je voulais savoir si vous pouviez nous parler des variations de ce genre en fonction des pays de production.
Alors, la comédie musicale, c'est un genre qui, dans l'esprit des spectateurs d'aujourd'hui, est très américain. Ce que j'ai voulu montrer dans l'exposition comédie musicale « La joie de vivre du cinéma », c'est que c'était un genre qui, en fait, s'est développé dans tous les pays du monde qui avaient une industrie cinématographique assez développée. Parce que c'est un genre qui coûte cher. C'est un genre qui demande plus de compétences qu'un film non musical, puisque ça demande une préparation particulière, il faut écrire des chansons, il faut chorégraphier des danses, il faut préenregistrer tout ça, ça amène énormément de contraintes tournage, donc ça veut dire qu'il faut éventuellement construire des décors pour permettre d'affronter ces contraintes, etc., des costumes, il y a la prise de son qui est également extrêmement contraignante. Donc il faut, pour produire en fait une comédie musicale filmée, une assise financière et économique assez forte, donc il faut une industrie forte. Et on remarque que dans tous les pays qui avaient, au moment de l'apparition du cinéma parlant, une industrie du cinéma forte, les films musicaux se sont développés avec des spécificités communes à chaque pays et éventuellement aussi un désir d'imiter ou de copier ou parfois de parodier le cinéma américain et les triomphes de la comédie musicale américaine, qui avait précédé même techniquement, par l'apparition du cinéma parlant, les cinématographies locales sur les écrans de cinéma. Donc, chaque pays a en quelque sorte inventé sa propre forme de comédie musicale, et qui est étonnant, parce que d'un pays à l'autre, vous avez des choses qui se retrouvent exactement de la même façon, parce que aussi, ces pays, ils étaient, je dirais, bridés par les mêmes impératifs techniques et technologiques que Hollywood au début, et en même temps, des particularités spécifiques à la tradition, notamment à la tradition musicale, à la tradition de chant et à la tradition de danse des pays en question. Ça amène à une variété, en fait, de comédies musicales ou de films musicaux tout à fait intéressantes et éclectiques.
Et du coup, parce que du coup, il y a le genre de la comédie musicale, mais à l'intérieur de la comédie musicale, il y a des genres, il y aura des comédies plus historiques, plus dramatiques, voilà. Est-ce que vous avez du coup un type de comédie musicale favori ?
Je sais pas si j'aurais un type de comédie musicale favori. Je trouve que ce qui est intéressant dans la comédie musicale, c'est justement la diversité des approches qu'on peut avoir entre la comédie musicale hollywoodienne classique, les Broadway contemporains, où on est sur une musique plus pop et puis sur des histoires très intimes de personnages. On a les grands, de ce qu'on a appelé les méga musicals, donc les grandes productions des années 80 type, donc Les Misérables ou Le Fantôme de l'Opéra, des choses comme ça, qui sont des trucs à grand spectacle, et on peut aller sur des choses plus intimes, comme une musique à laquelle je pense, c'est Fun Home, qui, je crois, a un projet d'adaptation au cinéma, qui est adapté d'une BD d'Alison Bechdel, et qui sort le parcours de cette jeune femme qui se découvre lesbienne, et en fait, on l'a sur trois périodes de son existence, et c'est aussi sur son rapport avec son père, etc. Enfin, il y a plein de manières. En fait, le traitement comédie musicale, c'est-à-dire le fait que les personnages se mettent à chanter et parfois à danser, même si c'est pas toujours le cas, ça peut accompagner toutes sortes d'humeurs, toutes sortes d'histoires, et c'est ça qui est génial en fait.
Est-ce que vous pensez que la production de comédie musicale, elle serait plus encouragée donc aux États-Unis qu'en France pour ces raisons?
Oui. De toute façon, il suffit de regarder le nombre de films produits. Hein. En France, franchement, on n'a pas vraiment de. Aujourd'hui, on l'a eu au cours des 27 siècles, mais aujourd'hui, on n'a plus vraiment de tradition de films musicaux. C'est extrêmement marginal dans le nombre de films qui sortent chaque année. Alors qu'aux États-Unis, parce qu'il y a ce réservoir de public jeune, oui, on constate une production vraiment importante, notamment de téléfilms musicaux. Si on pense en particulier aux téléfilms produits par Disney Channel, donc le network, le réseau qui est affilié au groupe Disney, qui à partir du milieu des années 2000, dans le sillage en fait, du succès de la trilogie High School Musical, a produit toute une série de films, de téléfilms musicaux qui reprennent vraiment les codes des comédies musicales cinématographiques. Et au cinéma aussi, c'est la même chose, c'est-à-dire que tous les films qui sortent essaient de miser d'une manière ou d'une autre sur des cibles en fait, sous les de spectateurs qui sont complémentaires, mais qui sont assez diverses, assez riches, vu que ce sont des films très coûteux à produire, toujours, qui demandent énormément de moyens humains, technologiques, etc. Il faut forcément s'assurer quand même que de nombreux spectateurs seront prêts à aller les voir.
Moi, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure concernant la réception en France des comédies musicales qui est moins populaire qu'aux États-Unis. Est-ce que vous observez une évolution dans ce fait-là? Est-ce que c'est toujours le cas? J'ai quand même l'impression, que, pour ma part, qu'il y a quelque chose qui change à ce sujet. Et ça s'observe pas mal au niveau des réseaux sociaux. Une des étudiantes a fait un travail là-dessus. Sur la réappropriation des chansons et la recréation de référents communs à travers les réseaux sociaux et la reprise de chansons notamment. Selon vous, est-ce que la réception française évolue à ce sujet?
Alors, il y a un phénomène qui est très intéressant en France, c'est que la réception du genre comédie musicale a évolué, je dirais, dans le bon sens, puisque pendant tellement d'années, j'ai eu à lutter contre des gens qui détestaient les comédies musicales. Il y en a encore, des réfractaires. Mais c'est vrai que depuis, il y a une quinzaine d'années, on va dire, je trouve de plus en plus d'interlocuteurs, non seulement parmi les critiques ou dans le milieu professionnel, mais aussi dans le public, à propos de la comédie musicale. Et je parle du public français. C'est-à-dire ce public qui était historiquement rétif, réticent, réservé à l'égard de la comédie musicale. Il faut peut-être essayer de comprendre ses réserves et cette réticence. Je pense que, pour schématiser, d'abord, la comédie musicale, c'est un genre qui est très américain. Donc, les Français le regardent comme ils regardent la culture ou la civilisation américaine de manière générale, c'est-à-dire un peu de haut, même si c'est divertissant, même si... Bon, c'est quelque chose qu'on ne prend pas vraiment au sérieux. En plus, il ne faut pas oublier que les comédies musicales classiques qui venaient d'Amérique quand elles venaient en France, soit elles étaient doublées en français, y compris les voix chantées. Or, voilà, si vous allez voir une comédie musicale avec Judy Garland et qu'elle est doublée par une chanteuse française, vous perdez quand même une partie de l'intérêt du film. Alors ça, première chose. Et puis, deuxièmement, puisque les films étaient diffusés de manière très très largement doublé en français. Lorsque on gardait les voix originales et qu'on ne doublait que les dialogues, vous aviez des personnages qui changeaient de langue à un moment, juste pour chanter, et puis qui revenaient à leur langue après, ce qui rendait totalement inconcevable la transition dont on parlait tout à l'heure, des parties dialoguées juste aux parties musicales, puisque à partir du moment où vous changez de langue, dans ce cas-là, vous faites une rupture qui est ridicule, ou disons qui vous sort de l'immersion du spectacle cinématographique qui peut amener justement à rejeter ce cinéma. Autre chose, le spectateur français, le public français, la critique même française dans son ensemble est assez attachée à une tradition de réalisme en littérature, mais aussi en théâtre et aussi en cinéma, encore plus en cinéma. C'est-à-dire qu'il y a des conventions qu'on accepte au théâtre, beaucoup plus facilement d'ailleurs on accepte au théâtre quelqu'un qui parle et qui se met à chanter, puisque vous avez la convention de la scène qui vous aide à accepter ça, qu'au cinéma où il y a une sorte de besoin, je dirais, fondamental de réalisme pour le spectateur, pour qu'il y croit. Donc ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles le public adulte français rejetait la comédie musicale. À cette exception près, quand même, qui étaient les films pour enfants, et notamment les films d'animation, qui ont toujours été acceptés par les enfants, même s'il y avait des chansons qui venaient, ou des numéros musicaux, qui venaient interrompre le récit à tout moment. Hein, puisque peut-être que les enfants ont moins besoin de ce réalisme que leurs parents. Or, un phénomène qui arrive depuis relativement récemment, enfin, mettons une quarantaine d'années, mais de plus en plus progressif et de plus en plus présent, c'est que le public d'aujourd'hui, ben, ils ont l'habitude, beaucoup plus que leurs parents, d'avoir de la musique dans les oreilles toute la journée. Pour eux, c'est beaucoup moins une entorse au réalisme que d'entendre de la musique quand on se balade dans la rue ou quand on s'adonne à des activités quotidiennes, puisqu'on a toujours un casque ou très souvent des écouteurs ou un casque avec de la musique dans les oreilles. C'est une première chose. Puis deuxièmement, bah, l'impérialisme culturel américain fait que très souvent, cette musique est parlée en anglais. Donc ça gêne beaucoup moins le public français d'aujourd'hui d'entendre chanter en anglais à tout bout de champ. Ça fait partie de ces phénomènes un petit peu extra-cinématographiques qui font que ce genre est plus accepté peut-être aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 20, 30 ou 40 ans.
Est-ce que la réception a vécu ce même mouvement de légitimation, en quelque sorte, de la comédie musicale ? Est-ce que le public est plus vaste maintenant qu'il ne l'était auparavant ?
La réception, c'est toujours en fait une question ou des questions compliquées, parce que avec le terme de réception, on a un peu l'impression que le film serait une espèce de message un peu à sens unique vers un récepteur qui serait un peu passif. Et en fait, ce que les études de réception montrent, c'est plutôt qu'il y a une interaction aussi entre les pôles de production et de réception des films. Alors, pour répondre précisément à votre question, non, je pense que les publics de la comédie musicale sont moins larges aujourd'hui qu'ils ne l'étaient auparavant, puisque la comédie musicale au milieu du XXe siècle, surtout dans les années 40 et jusqu'au milieu des années 50, était vraiment le genre, un des genres les plus populaires du cinéma hollywoodien, voire le genre, à certaines époques, le plus populaire du cinéma hollywoodien. Voilà, donc ça c'est un premier point. Maintenant, je pense qu'on est peut-être aussi dans une quinzaine d'années, dans une époque un peu de renouveau, puisque c'est un genre qui a vraiment trouvé de nouveaux spectateurs, qui a su en fait conquérir et trouver de nouveaux spectateurs depuis un certain nombre d'années. Je pense en particulier aux comédies musicales à la télévision, dans le domaine des séries télé, aux comédies musicales aussi au théâtre, avec quelques spectacles, pas énormément de spectacles, mais quelques spectacles qui ont su conquérir de nouveaux publics, c'est-à-dire des publics souvent très jeunes, en fait, avec des comédies musicales au théâtre comme Wicked, par exemple, Hamilton, donc, qui ont vraiment eu un succès énorme, et toute la presse aux États-Unis a vraiment rendu compte de ces spectacles. Donc voilà, c'est un genre qui est complexe en termes de réception par les publics, qui était très très populaire au milieu du XXe siècle, qui l'est sans doute moins aujourd'hui si on s'intéresse juste aux films musicaux, mais dans d'autres médias, voilà, qui a su conquérir quand même d'autres publics.
Dans un sens parfois assez péjoratif, on a tendance à dire que les comédies musicales sont un peu fleur bleue. Est-ce que c'est un aspect de la comédie musicale qui vous a repoussé ou au contraire attiré ?
Alors quand on dit que la comédie musicale est un peu fleur bleue, ça a trait en fait à une autre caractéristique de la comédie musicale, c'est que la comédie musicale, c'est un genre à ne pas prendre au sérieux. C'est un genre qui est léger, c'est un genre qui est populaire, c'est un genre qui n'est pas savant. C'est-à-dire, on revient encore là à la distinction, par exemple, entre opéra et comédie musicale. Un opéra, c'est sérieux, c'est légitime, c'est de la musique savante. Une comédie musicale, c'est de la musique pour tout le monde, c'est de la musique pour plaire au plus large public, donc c'est forcément superficiel, frivole, léger, futile. Je vous ai donné une définition étymologique qui est un genre où on joue à la comédie et puis on pratique une discipline musicale. Mais une autre, disons, définition de la comédie musicale, c'est que ce sont des films musicaux à ne pas prendre au sérieux. Donc, c'est comédie, c'est un peu pour déprécier. Vous voyez, il y a des comédies musicales qui ne sont pas des comédies du tout, qui ne sont pas drôles. West Side Story, c'est d'après une tragédie de Shakespeare. Une étoile est née, c'est un mélodrame musical. C'est pas tellement, c'est pas du tout une comédie. C'est comme au 19e siècle quand on mettait opéra comique. C'est pour déprécier. Carmen, c'est pas très comique, mais à l'époque, c'était appelé un opéra comique. Donc, c'est cette façon de déprécier, de prendre des arguments ou des intrigues qu'on peut appeler fleur bleue, ou qu'on peut appeler stéréotypée, ou qu'on peut appeler un gnangnan ou désuète. Certains opéras ont aussi des intrigues extrêmement mélodramatiques, désuètes ou gnangnan, mais on dit que la musique transcende artistiquement le point de départ. Pour les comédies musicales, l'idée reçue la plus communément partagée, c'est que le matériau dramatique de base n'est pas très sérieux et que la musique elle-même étant légère ne transcende pas artistiquement ou esthétiquement ou ne donne pas une légitimité savante au genre. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, ensuite, rien n'empêche de quand même prendre au sérieux esthétiquement et artistiquement les comédies musicales.
Mais il y a certains réalisateurs de comédies musicales qui justement prennent ce côté exagérément fleur bleue justement pour s'en amuser et jouer avec.
Effectivement, il y a dans la comédie musicale un côté, comment dire, romance qu'on peut assimiler à quelque chose d'un peu fleur bleue, c'est-à-dire d'un peu cliché, notamment pour ce qui est des rapports amoureux, puisqu'on se met à chanter, à danser pour un oui, pour un non, ce qui peut sembler un peu ridicule, parce qu'on ne fait pas ça dans la vie. Donc, les gens un peu fleur bleue, c'est des gens qui sont un peu rêveurs et qui ne sont pas dans la réalité. Donc, ça peut être une qualité, hein, ça peut ouvrir à l'imaginaire, pour, si on s'intéresse au genre de la comédie musicale, c'est vrai que c'est un genre qui se démarque du réalisme pour entrer dans l'imaginaire. Sinon, pour les gens qui n'aiment pas ça, effectivement, ça peut être considéré comme une faiblesse ou un défaut. Et justement, au fil des années 60 et au début des années 70, il y a eu, notamment aux États-Unis, une nouvelle génération plus contestataire contre les clichés, les valeurs familiales, les conventions, donc qui tournaient un peu en ridicule ce que la génération d'avant avait adoré. Et notamment au plan musical, c'est-à-dire au plan du style musical, c'est-à-dire les spectacles familiaux qui étaient les comédies musicales au théâtre comme au cinéma, étaient considérés comme une espèce de divertissement conventionnel, conservateur. Et de ça, les nouvelles générations se sont un peu moquées, hein, de la même manière que ces générations se moquaient de tout le cinéma hollywoodien traditionnel, classique, parce qu'il y avait un nouveau public qui allait dans les salles de cinéma, qui peut-être contestait les valeurs américaines, les idées reçues. Les genres associés à ces valeurs et à ce conservatisme des formes, et parmi ces formes, il y avait la comédie musicale, qui a subi une sorte de traversée du désert à partir de la fin des années 60 et durant toutes les années 70. C'est considéré comme un genre désuet, un genre passé, un genre qui n'était plus à la mode, puisqu'il y a des nouvelles sortes de musique, notamment le rock, qui avait pris, qui était devenu la musique populaire. Certains films, comme le Rocky Horror Picture Show, par exemple, ou comme Phantom of the Paradise, s'amusait à mélanger les idées reçues ou les conventions ou les clichés ou les archétypes de plusieurs genres, notamment les genres fantastiques, le genre du film d'horreur, en les mélangeant avec la comédie musicale pour obtenir une sorte de pastiche un petit peu postmoderne qui se voulait une sorte de réflexion amusée, sarcastique, ironique sur ce que les générations d'avant avaient adoré, avaient considéré comme populaire.
sur vos goûts, on va dire. Par exemple, si vous vous retrouviez sur une île déserte, qu'il vous fallait choisir une seule comédie musicale à regarder, laquelle choisiriez-vous et pourquoi ?
Alors, donc ça serait, je pense... mais évidemment, c'est un crève-cœur de choisir. ça serait peut-être Un jour à New York, On the Town, le film de Gene Kelly, Stanley Donen, de 49. Donc un film sur trois marins, Gene Kelly, Frank Sinatra et Jules Munchin, qui débarquent à New York pour un jour de permission et à qui va arriver des aventures un petit peu rocambolesques. Ils vont rencontrer des filles, évidemment. Ils rencontrent trois filles, ils sont trois garçons, ça tombe bien. Mais voilà, il y a plein de petites aventures, ça se passe sur une journée. C'est un film vraiment de la joie pure, quoi. Ça ne s'arrête jamais, le rythme. Et c'est vraiment hyper agréable. Enfin, je ne sais pas comment dire, agréable, c'est même pas assez fort pour dire à quel point c'est euphorisant, plutôt euphorisant. Voilà, et les numéros musicaux sont vraiment exceptionnels. Hein. Je pourrais même pas tous les citer, mais voilà, il y a le talent des j'allais dire des trois, mais non, des six interprètes en termes de danse notamment. C'est vraiment à la fois réjouissant et magnifique à regarder. Et voilà, comme quand on est sur une île déserte, je pense qu'on déprime un peu. Donc c'est peut-être le film idéal, à mon avis, pour ça.
D'accord. Mais c'est vrai que c'est un peu ce qu'on attend des comédies musicales, de un peu redonner le sourire et de...
Oui, c'est sûr que ça a cette image-là et qui, évidemment, correspond à quelque chose. Hein. Après, il y a aussi des comédies musicales qui traitent de sujets plus durs, qui sont tristes, qui font pleurer. Voilà, il y a de tout en comédie musicale, c'est ça qui est bien.
Si là, on vous demandait tout de suite de nous citer une chanson en particulier, laquelle vous vient immédiatement en tête ?
Alors, il y a une chanson, bon, là, c'est une référence un peu plus obscure, mais une des plus belles chansons de comédie musicale, je trouve, c'est une chanson qui a été écrite par Stephen Sondheim. Donc, Stephen Sondheim, c'est un parolier et compositeur... américain qui a travaillé énormément sur énormément de comédies musicales, surtout des comédies musicales scéniques, même si de par son travail il a été amené à travailler avec le cinéma, mais c'est surtout des comédies musicales scéniques. Je pense à la chanson Later, je sais pas pourquoi ça me vient, dans la comédie musicale qui s'appelle A Little Night Music, qui date de 73 et qui a été adaptée au cinéma à la fin des années 70, je me souviens plus exactement. C'est une adaptation d'un film de Bergman, donc ça se passe en Suède, des vies, on va dire des portraits pas forcément très joyeux, et notamment celui-là, c'est un jeune séminariste qui joue de violoncelle en se lamentant sur son existence. Et c'est en fait, il y a une telle alchimie entre la mélodie et les paroles que c'est hyper passionnant, en fait. Tout ce que ça raconte sur ce personnage en 3 minutes, c'est ça le génie, en fait, d'une chanson de comédie musicale. C'est ce que ça raconte sur un petit temps, tout ce qui se passe, qui bouillonne à l'intérieur d'un personnage. Voilà, ça peut être la joie, mais là, en l'occurrence, pas du tout la joie. Hein. En fait, il raconte que personne s'intéresse à lui et qu'à chaque fois qu'il veut parler à quelqu'un, on lui dit oui, plus tard. Ça s'appelle Later. Voilà, c'est ça, je trouve, la force vraiment de ce genre de numéro. Quoi. Là, en l'occurrence, des solos. Après, il y a les numéros d'ensemble qui peuvent raconter autre chose. Mais voilà, la force de raconter en 3 minutes tout ce qui se passe dans un personnage, toute son intériorité, ça, c'est vraiment, je trouve, du génie.
Moi, je voulais juste, du coup, faire le lien avec la capacité de ce genre, de la comédie musicale, à se réinventer constamment et à toujours renaître de ses cendres. Même quand tout le monde prévoit sa mort, elle arrive toujours à se réinventer. Est-ce que vous trouvez une justification à cette réinvention-là ? Est-ce que vous avez des pistes sur sa cure de jouvence ?
Je pense que vous avez là toutes les deux entièrement raison. Hein, donc c'est vraiment étonnant de voir comment depuis voilà, quelques années. Donc c'est un genre qui se disperse en fait et se répand dans plusieurs médias. Donc on a parlé tout à l'heure un peu de la télé avec les productions Disney. Donc il y a aussi les séries télévisées musicales, bien entendu, et les réseaux sociaux. Alors vous avez absolument raison. Donc ces dernières années, donc il y a notamment plusieurs artistes vraiment doués qui se sont fait connaître sur TikTok, mais aussi sur un autre réseau social, mais j'ai plus le nom en tête. Et donc il y a notamment un artiste qui invente en fait des chorégraphies sur des airs de comédie musicale connus dans une visée satirique. Donc je n'ai plus son nom en tête, mais il a publié plusieurs vidéos, donc les deux dernières années, contre le président Trump, notamment, en mettant en scène à chaque fois des airs très connus de comédie musicale, dont il transforme les paroles, inventant des chorégraphies, des moments de spectacle. Donc oui, c'est vraiment un genre qui sait se réinventer. Alors pourquoi ? Bah, parce que je pense que depuis très 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 longtemps, depuis voilà, plusieurs décennies et siècles, les traditions spectaculaires liées à la danse, au chant, à la musique sont vraiment très importantes dans la culture anglophone. Je vous parle de ce que je connais, donc ce sera plutôt les États-Unis, donc sont vraiment très importants aux États-Unis, et ça explique cette présence encore aujourd'hui de ce genre spécifique, alors transformé, renouvelé, mais sur plusieurs médias. Donc évidemment qu'on ne va plus penser aujourd'hui au modèle de la comédie musicale du type Chantons sous la pluie, qui a dominé à une époque donnée, dans les années 50, mais aujourd'hui, c'est un modèle qui s'est transformé pour s'adapter à de nouveaux publics, à un nouvel environnement culturel, à de nouvelles formes, etc.
Les pièces de théâtre de l'Antiquité à l'opéra italien, les origines de la comédie musicale sont européennes. Pourtant, c'est le Nouveau Monde qui met le plus à profit ce genre, et c'est désormais Broadway qui cristallise tous les fantasmes autour de la comédie musicale. Les amateurs du genre ne sont pas exclusivement anglophones, même si la majorité des œuvres mises à leur disposition le sont. Si en France la comédie musicale est un genre mineur et marginal, le développement d'Internet a permis aux fans d'avoir accès à un grand nombre d'œuvres étrangères. En plus de favoriser cette diffusion, Internet donne la possibilité à ses utilisateurs de se réunir virtuellement pour discuter de leurs pièces favorites et de s'organiser en communauté de fans. Au travers les divers médias de leur choix, ces petits groupes se partagent des avis, des informations, des conseils de visionnage. Des blogs aux forums de discussion, en passant par les groupes Facebook, la communauté de fans a su trouver comment célébrer son amour de la comédie musicale et l'entretenir. Bonjour à tous, et bienvenue dans cette capsule sonore dans le cadre du podcast sur les comédies musicales. J'aimerais vous faire réfléchir à mes côtés à la façon dont les utilisateurs de l'application TikTok ont repris pour eux à la fois les codes de la comédie musicale, ses mises en scène, ses gestes, et le format mis à leur disposition par l'application pour créer un objet nouveau de célébration de la comédie musicale. Je m'intéresse à cette application en particulier, car elle est à l'origine d'un format inédit de célébration qui dépasse la simple rediffusion en rendant les amateurs actifs et créatifs dans leur passion. TikTok est une application mobile développée en Chine en 2016 par l'entreprise ByteDance et mise sur le marché occidental à partir de 2017. Elle permet à ses membres de visionner et produire un contenu audiovisuel de 3 à 60 secondes, généralement par-dessus un fond musical. L'application donne accès à ses utilisateurs à une bibliothèque riche et variée de samples sonores, de nombreux filtres vocaux et visuels et de fonctionnalités interactives qui leur accordent une grande liberté créatrice, tout en leur facilitant l'accès aux outils de montage vidéo. TikTok fonctionne sur le principe du divertissement et n'a pas pour vocation de mettre en avant le lifestyle de ses utilisateurs. En cela, elle se rapproche de la regrettée Vine et s'éloigne des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et Snapchat. Les utilisateurs de l'application ont entre 13 et 25 ans et les contenus qui y sont principalement publiés sont des lip-syncs où les membres font du playback sur des chansons populaires, réalisent des chorégraphies, jouent la comédie sur des extraits sonores de films ou dramatise les paroles de chansons disponibles dans la bibliothèque. L'application entretient donc un lien à la fois à la musique et à la mise en scène. Il n'est ainsi pas étonnant que les utilisateurs aient commencé à se saisir de chansons provenant de comédies musicales pour créer du contenu. La prépondérance d'Internet a créé une nouvelle façon d'exprimer cette passion pour la comédie musicale. Des films sont devenus disponibles en streaming, rendus accessibles grâce au travail de fans qui se sont chargés de les traduire quand une doublure française ou des sous-titres faisaient défaut, mais principalement, on a parlé d'eux. On a parlé d'eux, et plus seulement dans le cadre de petits fan-clubs restreints. On a parlé d'eux à grande échelle, dans toute la communauté de fans francophones, abonnés au blog ou membres de forums de discussion. Les fans ont donc contribué à redistribuer les œuvres qui leur avaient particulièrement plu et à populariser le genre auprès d'autres utilisateurs d'Internet. Mais ce phénomène a pris une autre ampleur sur TikTok. L'application, si elle sélectionne le contenu en fonction des vues de ses utilisateurs, des vidéos qu'ils regardent et de celles qu'ils passent sans les visionner en entier, fonctionnent sur un système d'interaction. Plus une vidéo est vue, plus elle est aimée, commentée ou partagée, plus elle aura de chances de figurer dans les propositions soumises aux utilisateurs. Ainsi, il n'est pas rare que le contenu des amateurs de comédie musicale apparaisse dans le feed de membres qui ne font pas partie de cette communauté. En plus de cette brèche qui contribue à faire connaître certaines œuvres à des utilisateurs profanes et à les populariser, TikTok est particulièrement célèbre pour l'ampleur que peuvent y prendre des challenges et les trends. Vous me pardonnerez, je l'espère, les anglicismes répétés qui sont plus pertinents que s'ils étaient traduits, puisqu'ils sont utilisés ainsi par les utilisateurs, même francophones. Les challenges sont des défis qui consistent principalement en des chorégraphies ou des mises en scène sur une chanson ou un extrait cinématographique particulier. Les trends sont le reflet de phénomènes de mode qui sont populaires pendant une courte période. Une chanson, particulièrement utilisée, un filtre, des gimmicks. Les deux sont appréciés par un grand nombre d'utilisateurs et se développent en étant réappropriés et renouvelés par différentes communautés. La communauté des fans de comédie musicale met spécialement à profit ces phénomènes, en utilisant les hashtags notamment, pour se glisser dans les feeds de ceux qui y sont abonnés ou en consomment beaucoup. Ils contribuent ainsi à exporter leur passion en dehors de leur communauté et à attirer de nouveaux membres. Ils ne se contentent ainsi pas de partager leur centre d'intérêt avec d'autres fans, mais font découvrir le genre à d'autres utilisateurs qui ne s'y intéresseraient sinon pas. Ethan Bresnik, de l'Université de Californie du Sud, considère TikTok comme un terrain de jeu social à grande vitesse. Les trends et les challenges qui se développent à une vitesse fulgurante sont remplacés tout aussi rapidement. À l'image d'Internet, le contenu de l'application est très organique et évolue avec ses utilisateurs. Si ses utilisateurs témoignent suffisamment d'intérêt pour un phénomène en particulier et interagissent avec les contenus qui sont caractérisés par ce phénomène, celui-ci prendra une ampleur très importante et sera diffusé à un grand nombre d'utilisateurs. La communauté de fans de comédie musicale ne cesse de se développer sur TikTok, en raison de ce fonctionnement de terrain de jeu social à grande vitesse. La notion de terrain de jeu est d'ailleurs particulièrement importante, en ce qu'elle rappelle qu'il s'agit d'un lieu de divertissement. Les membres téléchargent l'application dans l'optique de passer un bon moment et de se voir proposer un contenu attrayant qui réponde à leurs attentes. Si les fans de comédie musicale qui se retrouvent sur Facebook ou sur des forums et des blogs peuvent s'intéresser plus en détail aux biographies de leurs acteurs favoris, se plonger derrière les coulisses de la réalisation de leur comédie musicale préférée, TikTok aborde l'objet sous un angle différent. Les membres se réapproprient l'œuvre cinématographique ou théâtrale et proposent un contenu ludique qui initie à la comédie musicale autant qu'il distrait et plaît. Sous la forme de lip-sync ou par la création d'une mise en scène, d'une chorégraphie mais aussi d'un certain éclairage, d'un décor, jusqu'à la création de costumes réalisés spécialement pour l'occasion, les créateurs s'approprient une partie des œuvres originales tout en se réalisant eux-mêmes dans la création d'un objet nouveau, hybride. Le contenu proposé correspond à des trends et à des challenges. En d'autres termes, il correspond à l'horizon d'attente des utilisateurs, répond à leurs demandes et les sensibilise à la passion des créateurs, tout en étant esthétiquement plaisant, formellement intéressant, innovateur, et surtout, distrayant. Il crée un nouvel objet, d'autant plus intéressant qu'il met indirectement l'œuvre originale à disposition de ses abonnés et des membres à qui sont proposées ses vidéos. Si l'objet créé est suffisamment plaisant, il peut susciter la curiosité du public qui ira se renseigner de lui-même sur l'œuvre originale et éventuellement la visionner. De cette façon, en se réappropriant certaines chansons, certains passages cultes et moins cultes de comédie musicale, en proposant une chorégraphie ou une mise en scène de certaines scènes et chansons, les créateurs font naître ou entretiennent le goût de la comédie musicale chez leur public, tout en proposant une œuvre nouvelle, inspirée, qui contribue à la diffusion de l'œuvre originale. Celle-ci est redécouverte ou remémorée, remise d'actualité et renouvelée par le contenu créé. Les fans ne sont plus passifs dans leur passion pour ce genre. Ils s'impliquent dans le partage, fournissent un travail créateur et produisent des contenus qui s'inscrivent dans la tradition de la comédie musicale, avec les mimiques utilisées, les costumes créés, les décors mis en place et la mise en scène. L'application propose un format de consommation instantanée de contenus brefs, qui correspondent à un certain mode de vie auquel le public ciblé s'identifie, et c'est avec ce format que les créateurs de la communauté des passionnés de comédie musicale composent et se font connaître. certaines chansons particulièrement exigeantes sont exécutées honorablement par des amateurs. Certaines scènes, particulièrement difficiles à jouer, sont performées avec talent par d'autres, amateurs, eux aussi. Internet, et cette application en particulier, permettent à des amateurs de se mettre en scène et de participer activement à la création d'un contenu de comédie musicale en réalisant des reprises de fans. TikTok rémunère ses créateurs les plus prolixes. Certaines vidéos sont monnayées et rapportent de l'argent à leurs créateurs. Elles sont le contenu d'un fan qui essaie de vivre de sa passion et ont un but lucratif. D'autres sont des créations qui n'ont pas pour objectif d'être rentables, mais de permettre aux utilisateurs de créer quelque chose, de produire un contenu, de performer leur passion et de participer au sein de la communauté à la célébration de cette passion. Toutes ces vidéos sont ainsi réalisées par des amateurs, par des fans, par des membres de la communauté des passionnés de comédie musicale. En plus de faire du fan un créateur, elles en font un penseur de l'objet de leur passion. L'appropriation d'un contenu, dans le but de créer un objet inspiré de celui-ci, le célébrant ou se le réappropriant, nécessite que l'on pense la source d'inspiration. Au-delà d'un simple partage, ce sont des micro-analyses, des prises de parti personnelles sur le contenu original, qui mixent réflexion et création artistique. Hervé Le Cronier emploie le terme de culture participative, qu'il définit comme utilisant les œuvres produites pour recréer de la communauté, des œuvres transformatives, diffusant ainsi, et assurant parfois le succès, des œuvres. Et comme une attitude, adoptée par rapport à l'œuvre partagée. Il prête à Henry Jenkins des propos particulièrement intéressants que je me permets de vous transmettre parce qu'ils m'ont profondément touché. La culture participative diminue les frontières entre l'expression artistique et l'engagement civique. Elle s'appuie sur des outils techniques puissants pour créer et pour partager ses créations avec les autres. Elle est un apprentissage horizontal dans lequel les plus expérimentés aident les novices. Elle accorde de l'importance à la participation de tous, ce qui renforce les liens entre acteurs et crée des communautés qui peuvent mieux s'engager ensuite. Ce fanfilm hybride, qui reprend les codes de la comédie musicale et des vidéos les plus populaires de TikTok, est un objet complexe, qui ne se contenterait donc pas de célébrer une passion commune, mais s'inscrirait dans un processus d'apprentissage à la fois participatif, performatif et transformatif, presque politique, puisqu'il est le produit d'une communauté dont les acteurs sont actifs au sein de cette communauté. J'achèverai ma réflexion sur une nouvelle citation d'Henry Jenkins dans La file qui est la construction sociale de la communauté des fans de science-fiction. Les fans de médias sont des consommateurs qui produisent, des lecteurs qui écrivent, des spectateurs qui participent. Cette nouvelle façon de consommer et de profiter de ces centres d'intérêt produit donc des formats nouveaux, hybrides, ludiques, qui permettent à la fois de partager sa passion à d'autres utilisateurs et de la vivre pleinement en réalisant des contenus qui correspondent à ce centre d'intérêt. Cette volonté performatrice et transformative des utilisateurs de TikTok leur fait produire des contenus divertissants qu'ils se plaisent à réaliser, parfois lucratifs, parfois dans le seul but de participer à la célébration du genre de la comédie musicale, qui contribue à renouveler un genre qui a besoin de vivre avec son temps s'il veut continuer à séduire. Ces objets hybrides, entre le fanfilm et le TikTok, comprenez la vidéo TikTok, donnent aux membres non initiés l'envie d'en découvrir plus et qui sait, peut-être, de se pencher sur des classiques de la comédie musicale qui les feront potentiellement basculer du côté du fandom, ce royaume de production artistique et intellectuelle particulièrement florissant, qui fonctionne comme un fan club virtuel élargi à la planète entière, dont les moyens ne sont limités que par ce qui dépassera l'imagination des créateurs.
On se demandait plus généralement ce que vous pensiez des comédies musicales actuelles, comment vous les appréciez et qu'est-ce que vous en attendez aussi, et à ce sujet également, comment vous envisagez l'avenir des comédies musicales ?
Alors, c'est vrai que comme beaucoup de fans de comédie musicale, j'ai commencé et j'aime principalement, on va dire, les grands classiques, les films de la MGM des années 50, Jacques Demy, voilà. Mais ce qui ne m'empêche pas du tout d'apprécier régulièrement des films musicaux contemporains. Je dirais qu'il y a deux choses sur les films musicaux contemporains. C'est que c'est beaucoup des adaptations de succès scéniques. comme Mamma Mia, par exemple, Chicago, bon, qui commence à dater, mais qui était dans les années 2000, Into the Woods, etc., ce qui ne veut pas du tout dire que ce n'est pas créatif. Et puis, il y avait déjà des adaptations de musicales scéniques, même dans les années 30, 40, 50. Mais je trouve qu'il y a une façon de toujours se référer à un âge d'or. Par exemple, La La Land, c'est un film que j'aime bien, dont j'aime beaucoup la mise en scène. Je trouve qu'il y a des numéros musicaux très beaux, etc. Mais il y a une manière de toujours faire référence à des comédies musicales qui ont précédé, et toujours dans un regard soit nostalgique, soit parfois parodique. C'est pas trop le cas dans La La Land, mais ça peut l'être dans d'autres œuvres. Et du coup, une manière de ne pas renouveler le genre vraiment fondamentalement. Alors, il y a d'autres films qui renouvellent le genre. C'est par exemple les films de danse. On peut penser à la saga Step Up, etc., qui ne sont pas forcément des chefs-d'œuvre, mais qui sont des films assez intéressants où la danse est très bien filmée. Je pense qu'il y a une manière de peut-être de plus renouveler le genre. On peut aussi penser à Bollywood, toutes les productions des films indiens de Bollywood qui, eux, sont ni dans la nostalgie, ni dans la parodie, ni quoi que ce soit, qui sont dans une forme de premier degré, vraiment parfois too much, tellement c'est éclatant de couleurs, de 1500 figurants, etc. Mais ça, c'est une manière peut-être plus rafraîchissante de voir la comédie musicale. Après, les deux peuvent très bien cohabiter, d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Et c'est vrai que la comédie musicale, aujourd'hui, a encore sans doute un peu une image ringarde, mais j'ai l'impression que ça revient un petit peu quand même, qu'il y a eu vraiment un passage à vide. Et que qu'en ce moment, ça a plutôt la cote, j'ai l'impression.
Avec La La Land, notamment, ça a un peu redonné du pep à la comédie musicale.
Oui, c'est vrai que ça fait partie des films qui ont lancé une nouvelle production de films. Il y a eu donc pas mal d'adaptations de Broadway, mais aussi des comédies musicales créé pour le cinéma, comme The Greatest Showman. Bon, The Greatest Showman, j'aime pas du tout ce film, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ça a lancé une certaine tendance. Je sais pas si elle va durer, hein, mais c'est vrai qu'il y a plus de films musicaux en projet en ce moment qu'il y a quelques années.
Ouais. Après, oui, c'est vrai qu'il y a peut-être un manque de... Enfin, il n'y a pas de côté novateur, on va dire, quelque part, et que ça reprend pas mal d'anciens codes. Mais...
Quand même, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être parce que les codes de la comédie musicale des années 50 étaient magnifiques et sont tellement inspirants qu'ils peuvent continuer de prospérer. Hein. Je ne sais pas exactement, mais c'est quand même l'impression que j'ai. J'ai tourné en fait récemment avec une classe de CM2. J'ai fait un atelier autour du film musical. En fait, ça fait plus d'un an que je travaille avec eux. On a écrit et réalisé, le tournage était il y a 2 semaines, un petit film musical. J'ai adoré en fait, l'enthousiasme des petits, bah, c'est les gamins, ils ont 10 ans quoi. Sur le genre de la comédie musicale, en fait, ça n'a pas du tout été difficile de leur en parler, de leur expliquer ce que c'était. Ils n'ont pas du tout trouvé ça ridicule. Et je leur ai montré plein d'extraits, ils étaient fascinés. Je leur ai montré notamment West Side Story, le prologue de West Side Story. Ils étaient fascinés, ils m'ont demandé plusieurs fois de le revoir. Le côté spectaculaire, notamment, le côté danse, en fait, ça les a fascinés. C'est là, waouh, tu les entends réagir, enfin, c'est vraiment hyper agréable. Et donc, c'est rassurant, entre guillemets, de se dire que les jeunes générations, enfin voilà, c'est un goût qui ne va jamais se perdre, en fait, la comédie musicale, parce que ce côté waouh, en fait, de regarder des gens chanter et danser hyper bien et exprimer des sentiments, etc., de cette manière-là, bah, ça fonctionne pour toutes les générations.